Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue dans votre émission de Radio Okapi intitulée Regard sur l'actualité de la semaine. Ravi de vous retrouver encore ce matin. Nous rappelons que chaque samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour justement passer en revue l'actualité de la semaine, nous recevons Madame Christine Bingaya Sakina, elle est journaliste à la Radio-Télévision Nationale Congolaise, RTNC Congo Central. Elle n'est pas encore là, il va nous rejoindre. John Banyene, président de la société civile du Nord Kivu. Bonjour John Banyene.
Oui, bonjour Guy Martin, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Et en ligne depuis Paris, capitale de la France, Romain Gras, qui est journaliste au magazine Jeune Afrique, et est chargé de la couverture de la RDC et de la région des Grands Lacs. Bonjour Monsieur Romain Gras.
Bonjour, merci à vous pour l'invitation.
Merci à tout de suite pour la rétrospective de 7 jours d'actualité.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi, ou encore la chronique coronavirus et le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42 502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42 502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Mesdames et messieurs, vous écoutez Regard sur l'actualité de la semaine, l'émission qui passe en revue l'actualité qui a compté au cours de ces derniers jours de la semaine. Je rappelle que cette émission connaît la participation de Madame Christine Bingaya Sakina, elle est journaliste à la Radio-Télévision Nationale Congolaise RTNC Congo Central. John Banyene, il est président de la Société Civile du Nord Kivu, et en ligne depuis Paris, capitale de la France, Romain Gras, qui est journaliste au magazine Jeune Afrique, il est chargé de la couverture de la RDC et de la région de Grand Lac. Au menu de cette émission, la question de l'avenir de la force régionale après la démission et le départ du commandant de la force de l'EACRF. Jean-Pierre Bemba dénonce les renforcements des positions du M23 alors que ces rebelles sont censés se retirer des localités occupées. Les commissionnaires en douane au Congo central dénoncent la hausse vertigineuse de la valeur en douane que la Direction générale des douanes et assises DGDA a configurée dans son système Sidonia. Mais nous allons commencer par un commentaire au sujet de la journée de l'enseignement national célébrée le dimanche 30 avril en RDC. En effet, un appel à la valorisation de la profession enseignante a été lancé dimanche 30 avril à Kinshasa par le ministre des tutelles pour contribuer à l'amélioration de la qualité de l'enseignement dispensé aux élèves de la République démocratique du Congo. Nous devons poursuivre le travail avec abnégation, avec amour et détermination afin de contribuer sans relâche à la valorisation de la fonction enseignante et à l'amélioration de la qualité des enseignements dispensés à nos élèves. Avenir du Congo, a déclaré le ministre Tony Mwaba dans son message adressé à l'occasion de la journée de l'enseignement national célébrée le 30 avril de chaque année. Monsieur John Banyene, que vous inspire cette journée dédiée à l'enseignement national en RDC?
Je crois que cette journée de l'enseignement en RDC, c'est une journée que nous saluons parce que vous savez que sans enseignement, on ne peut pas espérer avoir une nation. Et malheureusement, nous, ici chez nous à l'Est, nous avons des contrées où les enfants ne vont même plus à l'école. Presque toute une année scolaire va se passer sans que les enfants n'étudient. Je crois que que ce soit l'humanité entière, que ce soit même la nation congolaise. Nous compatissons avec ces enfants, d'où leur place devrait être à l'école, mais aujourd'hui, ils sont dans des camps de déplacés. C'est ce que nous sommes en train de déplorer. Mais néanmoins, par rapport aux autres enfants qui vont à l'école, nous continuons toujours à demander au gouvernement de continuer à songer à l'enseignement surtout pour un salaire décent pour les enseignants, parce que ce sont eux qui préparent l'avenir de toute la nation.
Et à votre avis, que vaut la célébration d'une telle journée dans un contexte où les conditions socio-économiques de l'enseignant ne sont pas, n'est-ce pas, susceptibles de l'encourager à améliorer la qualité de son travail?
Je crois que les enseignants eux-mêmes, même durant cette journée dédiée à l'enseignant, les enseignants, ils ont célébré la plupart de la méditation parce que avec les salaires qu'ils reçoivent, c'est un salaire qui ne les permet même pas de garantir leurs besoins tout un mois. Et je crois qu'il revient toujours au gouvernement congolais de voir comment améliorer, pas seulement le social des enseignants, mais le social de tous les fonctionnaires de l'État. Mais comme c'était les enseignants avec leur journée du 29 avril, je crois que effectivement, c'est toujours une interpellation à notre gouvernement de faire mieux. Mais aujourd'hui, les parents, ils ont eu un ouf de soulagement parce que certains parents ont fait plus de 30 ans et même prenaient en charge les enseignants. Et là, aujourd'hui, nous sommes en train d'observer comme certains enseignants n'ont pas été contents de cette gratuité pour que l'État puisse leur prendre seulement en charge. Ils voulaient toujours rester sous la charge des parents parce que là, ils exigeaient beaucoup d'argent, ça dépend des écoles. Mais comme l'État a pris ses responsabilités, selon notre constitution, je crois que l'État, effectivement, ce que nous sommes en train de vivre, l'État congolais doit encore faire mieux pour que ses enseignants se sentent aussi à l'aise. Donc, le parlementaire, et qui sont les autorités budgétaires, ils doivent quand même fournir beaucoup d'efforts pour que le gouvernement puisse donner un salaire décent aux enseignants.
Merci Romain Ga. Cette journée permet de réfléchir sur la condition de l'enseignant. L'enseignant est traité en parent pauvre dans nos pays, n'est-ce pas, en voie de développement. Cependant, même en Occident, la situation de l'enseignant est loin d'être reluisante, parce que là aussi l'enseignant se plaint. À votre avis, qu'est-ce qui peut expliquer la condition de l'enseignant en général, qu'il soit au sud ou au nord?
Il y a des revendications salariale, j'allais dire d'un côté comme de l'autre. Maintenant, sur l'exemple qui nous intéresse, celui de la RDC, c'est assez intéressant de le recontextualiser sur ce qui s'est passé ces trois dernières années en RDC entre le gouvernement et le corps enseignant congolais. Il y a eu quand même un accord qui a été noué au mois d'avril 2022, qui prévoyait un certain nombre de choses concernant l'application de mesures relatives notamment aux accords de Bibois sur l'amélioration notamment des conditions salariales des enseignants à tous les niveaux, l'octroi de primes, la gestion d'arriérés de paiement. Et ce qu'on constate encore aujourd'hui, c'est qu'il y a toujours des difficultés et des revendications du corps enseignant sur une meilleure mise en application de ces accords. On a encore vu au début du mois de mars un mouvement de grève, c'est ce qui s'est chez les professeurs d'université publique. Donc il y a un sujet récurrent qui va être d'autant plus crucial cette année pour l'administration qui est en fonction, puisqu'on est sur une année électorale où on va inévitablement parler du bilan de cette administration sur le plan de l'enseignement. Alors il y a eu la gratuité, mon co-invité en a parlé, mais il y a ce problème récurrent de la question de la condition sociale du corps enseignant congolais.
Et justement, par rapport à cette réforme qu'on appelle gratuité de l'enseignement primaire, telle que la réforme est menée jusqu'aujourd'hui, comment vous la percevez? Est-ce qu'elle peut permettre non seulement aux élèves qui avaient des difficultés pour étudier de revenir à l'école, mais aussi est-ce qu'elle peut permettre aux enseignants de pouvoir se retrouver afin qu'ils essaient de donner le meilleur d'eux-mêmes et d'améliorer même la qualité de leur travail, la qualité de l'enseignement?
Ouais, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a le sentiment, il me semble que c'est vous qui avez utilisé cette expression tout à l'heure, il y a le sentiment chez le corps enseignant d'être une forme de parent pauvre au niveau des salaires. Maintenant, la gratuité de l'enseignement, si tant est qu'elle soit correctement mise en application, peut constituer évidemment un progrès indéniable du point de vue de l'accès des élèves à l'éducation. C'est un plan crucial. Maintenant, il y a la revendication du corps enseignant qui est, elle, sur ses propres conditions salariales, ses conditions de travail, qui reste un sujet encore là aussi sur la table.
Merci. On prend une petite pause avec hommage à nos professeurs des Grégoire Boissonneau et revient tout de suite après.
Nous nous sommes connus de l'été à l'été, professeurs disparus, mais au fond, à jamais, car si je parle, j'écris, si je sais qui je suis, si j'explique et conçois, si ma vie se construit, si j'ai le cœur qui chante et des mots qui dessinent, si mon esprit invente, si mes doigts imaginent, c'est parce que vous avez su nous montrer la voie et sans vous avoir vu, on ne grandirait pas. Et quand vous aviez tort, oui, vous aviez raison, vous n'étiez que les forts et nous un peu trop cons, et vous gardiez l'espoir. Vous n'étiez que patience, au-delà du devoir, vous nous faisiez confiance, vous avez cru en nous, quand personne n'y croyait, vous pensiez malgré tout qu'il fallait tout donner, et parfois vous avez remplacé nos parents, vous nous avez aimés, comme on aime son enfant. On a été ingrats, on a été odieux, on était arrogants, idiots et capricieux, et jamais, jamais, vous nous laissiez tomber, oui, jamais, jamais, vous nous abandonniez, car c'est inscrit en vous, gravé dans vos entrailles, envers et contre tout, toujours vailleux que vaille, car aider un enfant, c'est aider l'univers, c'est l'enfer des parents, de meilleurs pères et mères. Il fallait mon enfant pour que je le comprenne. Il fallait mon enfant pour qu'enfin je l'apprenne. Pour que tout soit limpide et clair en une seconde. Votre métier est bien l'un des plus beaux du monde. Nous sommes connus de l'été à l'été. Professeur d'histoire.
C'était hommage à tous nos professeurs de Grégoire Boissonneau, un auteur, compositeur, interprète français qui, à travers ses chansons, loue le travail des enseignants pour nous former. On revient à l'actualité de cette semaine. La société civile Force Vive de la province du Nord Kivu s'est réjouie samedi 29 avril de la démission jeudi du commandant de la force de la communauté de l'Afrique de l'Est, EAC, le général Jeff Nyaga. Cette organisation invite le gouvernement congolais à s'assumer en tant qu'État. Pour le premier vice-président de cette structure citoyenne, Edgar Matesso, la population attend de la force de l'EAC qu'elle se comporte différemment de ce qu'elle est en train de faire actuellement sur le terrain. Edgar Matesso constate que cette force est plutôt une force d'interposition, ce qui est tout le contraire d'une force offensive que les populations souhaitent voir combattre les groupes armés, notamment les M23. Romeda, vous êtes journaliste au magazine Jeune Afrique. Vous êtes chargé de la couverture de la RDC et de la région des Grands Lacs. Vous avez souhaité nous parler de la question de l'avenir de la force régionale après la démission et le départ du commandant de la force de l'EACRF. On vous écoute.
Effectivement, j'ai voulu parler de ce sujet parce que je pense qu'on est en ce moment à un moment en charnière de l'avenir de cette mission, parce que depuis le début, depuis le lancement de cette mission, depuis sa création en juin 2022, il y a des divergences entre la RDC et ses partenaires sur ce que doit être la mission de l'EACRF. Aujourd'hui, une semaine après la démission commandant de la force régionale, on est dans une situation où son successeur n'est pas encore arrivé, où le mandat de cette force régionale n'a pas encore été renouvelé, où il demeure, comme on l'a dit, une incompréhension ou des divergences stratégiques sur ce que doit être la mission de cette force régionale, sachant que Kinshasa est très clair depuis le début sur la volonté de voir cette mission adopter un mandat offensif. Donc on a face à nous une période d'incertitude sur ce que va être l'avenir de cette force régionale qui en plus connaît depuis son lancement des problèmes chroniques de financement qui laissent penser que en l'état il est difficile de voir de quoi sera fait son avenir pour la suite de son mandat si bien sûr il est renouvelé. On a là ces prochains jours une réunion normalement des ministres de la défense de l'East African Community qui devait avoir lieu à Goma au milieu du mois d'avril, qui a été reportée et qui depuis ne s'est pas tenue, et c'est à cette occasion que la RDC compte tenter d'avancer sur justement la redéfinition du mandat de cette force.
Et pourquoi vous semblez lier l'avenir de cette mission, cette force de l'ERC, à la démission du général Jeff Niega?
Je ne lis pas les deux questions. Je pense juste que la démission du général Jeff Niega, qui par ailleurs était poussé vers la sortie par Kinshasa, l'entourage du président Tshisekedi ne cachait plus, tout du moins ces dernières semaines, son agacement vis-à-vis des différentes déclarations du commandant de la force. Maintenant, ça pose la question, une fois que ce départ est acté, comment est-ce qu'on fait en sorte que cette force régionale puisse convenir à la fois aux pays contributeurs et aux pays qui l'accueillent, la RDC, sachant que les deux ont l'air d'avoir une compréhension différente, parce que ce qu'il faut rappeler, c'est quand même que la RDC reproche évidemment au général Jeff Niega de ne pas avoir adopté une attitude offensive vis-à-vis du M23, mais que cette position-là est également assumée en public par des chefs d'État de la région. On peut citer Yoweri Museveni ou Samia Suluhu, la présidente tanzanienne, il n'y a pas très longtemps, mais aussi encore plus récemment par le ministre des Affaires étrangères du Kenya, Alfred Mutua, qui avait publiquement assumé le fait que cette force n'était pas là pour venir combattre le M23 selon ses propres termes.
Et à votre avis, qu'est-ce qui peut avoir changé entre-temps? Parce qu'on sait qu'en amont, c'est ce qui était officiel, hein, en amont, lorsque les chefs d'État se sont retrouvés pour, n'est-ce pas, envisager la possibilité de mettre en place cette force, et la mission principale de cette force était d'utiliser la force de la coercition au cas où les forces négatives, notamment les M23, refusaient de déposer les armes. Mais on se rend compte qu'une fois déployée sur le terrain, cette force a tenu un autre langage en disant que nous n'avons pas un mandat offensif, nous avons plutôt un mandat de faciliter un règlement politique à cette crise. Et à votre avis, qu'est-ce qui peut avoir changé sur le terrain pour qu'il y ait cette divergence de vue par rapport au mandat de cette force de l'EAC?
Je pense que dès le début, dès le mois de septembre, la RDC pour réclamer l'application du mandat se base notamment sur le statut des forces, le SOFA. C'est un document qui a été signé au tout début du mois de septembre et qui, dans l'un de ses points sur les objectifs, parle de la conduite d'opérations conjointes avec les FARDC. Donc la RDC s'appuie depuis le début notamment sur ce document-là pour dire que cette mission que la mission de la France est une mission offensive. Ce qu'on a vu entre le mois de septembre et le mois d'octobre, c'est qu'il y a eu énormément de tâtonnements stratégiques au QG de la force. Il faut se rappeler que entre le mois d'octobre et jusqu'à son retour en RDC mi-novembre, le général Jeff Niega était à Nairobi pour des consultations, et que quand il est revenu au mi-novembre et qu'il fait sa première déclaration à Goma, la couleur est de suite annoncée par le général Niega, qui est rentré de ses consultations à Nairobi et qui dit très clairement que la priorité est clairement donnée au processus politique. Et depuis, la position de la force régionale, de par ses principaux contributeurs qui ont été le Kenya et des chefs d'État de la région, à l'exception évidemment de la RDC, a été de dire que cette force avait avant tout pour vocation, si vous voulez, de faciliter un processus politique plutôt que des combats et des affrontements sur le sol.
Merci. Je rappelle qu'on n'arrive toujours pas à voir Madame Christine Bingaya Sakina, qui est journaliste à la Radio-Télévision Nationale Congolaise RTNC Congo Central, et qui avait donné son accord de principe, mais lorsqu'on essaie de la joindre, elle ne décroche pas. John Banyene, vous êtes président de la Société Civile du Nord Kivu. Votre structure, la Société Civile Force Vive de la province du Nord Kivu, s'est réjouie, n'est-ce pas, de la démission du commandant de la Force Régionale. Vous pensez que le fait d'obtenir la démission d'un commandant suffit pour changer la donne sur le terrain? Le problème qui se pose, c'est celui, n'est-ce pas, de la divergence des vues, la compréhension commune du mandat de cette force. Il n'aurait pas été prudent pour le gouvernement de jouer sur deux terrains, renforcer les capacités des FARDC pendant ces temps? Et il tente, n'est-ce pas, de convaincre ses partenaires au sein de l'EAC sur la nécessité d'accorder à cette force un mandat offensif.
Oui, Monsieur Guy Maté, je crois que nous, comme société civile et toute la population du Nord Kivu, vous savez que nous sommes une province maîtrise, ça fait au moins plus de 25 ans que nous sommes dans une situation de la guerre. Et voilà, quand on a été imposé encore avec cette énième guerre d'agression, nous, on croyait que notre pays va même faire recours aux forces de la SADC au lieu de faire les recours aux forces de l'EAC. Parce que nous, au début, comme société civile, on n'était pas d'accord, on s'était opposé. Parce que nous, on disait l'EAC est constitué des pays qui nous ont agressés, à part la Tanzanie, mais si vous voyez l'Ouganda, si vous voyez le Rwanda, le Burundi, tous ces pays sont des pays qui ont agressé notre pays, et nous, on ne croyait pas que c'est là où devrait venir le soutien. Et voilà, si le général Nyaga a démissionné, nous, on est en train de dire parce qu'ils étaient dans un jeu qu'il ne maîtrisait pas, et nous on est en train de se demander, c'est devenu comme un tour de Babel, parce que nous comme population, on savait que cette force de l'EAC venait pour accompagner, pour aider le gouvernement congolais à restaurer la paix et la sécurité. Je crois, quand on a commencé à initier Nairobi 1, on avait appelé tous les groupes armés, bien évidemment y compris même les responsables de ces terroristes du M23 qui n'existent même pas, c'est le Rwanda qui se fait passer comme M23, ils sont partis à Nairobi. Quand ils étaient là, les M23 ont commencé leurs attaques, et c'est à ce moment-là que le gouvernement avait chassé le M23 de ses assises de Nairobi 1. Et les autres groupes armés étaient tout à fait d'accord en disant qu'ils vont cesser avec les hostilités. Il y a eu Nairobi 2 et Nairobi 3, nous comme société civile, on a été obligés d'y aller parce que le gouvernement nous avait rassurés par ses propos en disant qu'il n'y aura pas question de négocier avec le M23. Et quand le gouvernement a pris cette option et qu'il continue à prendre, et c'est ça le souhait de nous, la population et de la société civile, on s'était dit d'aller à Nairobi. Arrivé à Nairobi, lors de pourparlers là-bas, et nous, on savait que, comme on disait, que ce conflit de l'Est doit se passer politiquement par la diplomatie aussi, et par la force, donc par la guerre. Et là, on nous avait dit, si il n'y a pas une issue favorable dans le cadre des dialogues ou diplomatiquement, bon, il y aura la force militaire qui doit s'interposer. Et quand on était à Nairobi, c'était au mois de novembre, décembre, et c'est à ce moment-là où on a commencé à observer le déploiement d'autres forces de l'EAC, mais c'est le Kenya qui avait commencé à déployer ses forces quand la ville de Goma était sérieusement menacée. Et quand on essayait de causer avec le responsable même de l'EAC, disait qu'ils attendent seulement l'ordre des chefs d'État. Lors du mini-sommet de Luanda de novembre 2022, c'était dit que le M23 devrait se retirer de toutes les zones qu'il occupait et replier jusqu'à dans les monts Sabine. Et ils avaient comme moratoire jusqu'à à la date du 15 janvier. Et nous, on a attendu comme population pour que cette force puisse se retirer, mais la force ne s'est pas retirée. Et à un moment donné, au courant du mois de janvier, il y avait eu même remise et reprise de certaines entités entre les forces de l'EAC et les terroristes du M23 RDF à Kibumba et Rumangabo. Malheureusement, le M23 avait dupé, si je peux le dire, la force de l'EAC parce que le M23 n'avait pas quitté la zone de Kibumba et de Rumangabo.
John
et aujourd'hui, si le commandant de l'EAC peut démissionner, c'est parce que tout ce qu'il garantissait à la population, ça n'a pas été fait. Et voilà, après cette remise et reprise de ces deux entités dont je parlais, les forces de l'EAC sont entrées maintenant en conflit avec la population parce que la population ne comprenait plus ce que l'EAC est en train de faire parce que c'est comme il y avait une cohabitation entre les forces de l'EAC et ces terroristes du M23.
Oui, maintenant que le général Jeff Unyaga est parti, qu'est-ce que vous, de la société civile, vous souhaiterez? Vous pensez que le départ de Unyaga suffit pour que la donne change sur le terrain?
Monsieur Guimaté, je crois que la démission de Jeff Unyaga, ça prouve à suffisance que la force de l'EAC, elle ne sait pas ce qu'elle est venue faire ici chez nous. Je crois que même en date du 19 avril 2023, nous, la coordination de la société civile du Nord Kivu, nous avions lancé un communiqué où on demandait au chef de l'État et au Premier ministre de nous aider à nous éclairer, nous, la population, du mandat exact de la force de l'AAC. Et jusqu'à aujourd'hui, M. Guimaté, vous devez comprendre que nous, la société civile et la population, on ne connaît pas jusque là le mandat exact de l'EAC, ce que nous qualifions d'inambiguïté.
Merci.
Et pour ce qui concerne la démission de Jeff Unyaga, ce n'est qu'une réalité parce qu'il devrait quand même démissionner parce qu'il n'a pas répondu d'abord aux desiderata, pas seulement de la population, je dirais même du gouvernement congolais.
Merci, Monsieur Omega. Si après la démission du général Jeff Unyaga, les états de l'EAC n'évoluent pas dans leur perception, si le flou persiste et continue à persister sur ce qui doit être la mission, n'est-ce pas, de cette force de l'EAC, à votre avis, quels sont les scénarios possibles?
Ouais. Pour ce qui est du changement, vous posiez la question de savoir si le départ du général Unyaga allait inévitablement amener un changement d'attitude de la force régionale. Il y a des raisons de douter que ça soit le cas, au sens où, comme je vous l'ai dit au début de mon propos, la position du général Unyaga, elle a été reprise et assumée aussi par d'autres chefs d'État, par des chefs d'État de la région. C'est-à-dire quand vous lisez l'un des communiqués de Yoweri Museveni au moment où les contingents ougandais sont déployés il y a un mois et quelques de cela, ou que vous entendez les propos de la présidente tanzanienne tenue en Afrique du Sud, il me semble, il y a pas si longtemps que ça non plus, ça illustre, si vous voulez, la volonté de maintenir cette force dans une démarche qui ne semble pas forcément correspondre, en tout cas à la vision que la RDC se fait pour l'instant de ce que doit être le mandat de cette force. Donc maintenant, la RDC tente de pousser sur des choses très précises, hein, quand elle demande la revitalisation du mandat, elle veut des garanties pour lever les ambiguïtés sur l'existence d'un mandat offensif ou non. Maintenant, est-ce qu'elle parviendra à les obtenir? À l'origine, depuis que la RDC a rejoint, si vous voulez, l'East African Community au mois de mars 2022, on peut pas dire qu'il y ait une grande confiance qui se soit bâtie entre les États de ce bloc. Donc, difficile à dire aujourd'hui si la démission du général Unyaga amènera inévitablement un changement d'attitude de la force régionale. Il y a en tout cas de vraies raisons d'en douter.
Merci, chères auditrices et chers auditeurs. L'actualité en RDC, c'est aussi l'actualité musicale. On va écouter Dolce Gabbana, cette nouveauté des Que Black, un Congolais qui évolue en Europe. Et on revient juste après.
Ah, chérie, à vrai, chérie, à solo, solo, n'est-ce pas, palais, maman, à banana, balingi, to cabana, tosa, dolce, na cabana, bata, Michel et Obama, jamais, bango, babosana, jaja, babosana, tosa, dolce, na cabana, bata, Michel et Obama, na boi, to cabana, banyoka, banyoka, baloba, baloba. Bayoka, bayoka, ninga ninga na yo, namboka, namboka, ngana leli bona yo, nakoma boka, ya bolingo bona yo. Mère ya balai, mère ya soin, mère ya mokonzi, mère ya solo, mère ya salongo, mère ya chukuchu, mère ya hi, azachere ya vrai. Chérie à solo solo, n'ere à balai, maman na banana, balingi to kabwana, tosa dolce na kabana, bata Michel et Obama, jamais bango babosana, jaja babosana, tosa dolce na kabana, bata Michel et Obama, naboyi to kabwana, aza chérie à vrai, chérie à solo solo, n'ere à balai. Mama na banana na, balingi to kabwana, toza dolce na gabana, bata Michel et Obama, jamais bango babosana, jaja babosana, toza dolce na gabana, bata Michel et Obama, naboyi to kabwana. Boya boya, boya, boya boya. Nere ya balai, mama na banana, balingi to kabwana, toza dolce na kabana, bata Michel et Obama, jamais bango babosana, jaja babosana, toza dolce na kabana, bata Michel et Obama, boi to kabwana.
Prenez tout.
Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour, nous revenons dans cette émission Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que chaque samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours avec nos invités. Nous essayons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la RDC. Dans la première partie de ce magazine, nous avons fait un commentaire sur la journée de l'enseignement national célébrée le dimanche 30 avril en RDC. Nous avons également analysé l'avenir de la force régionale après la démission et le départ du commandant de la force de l'EIAC RF. Participe à cette émission, John Obanyene, il est président de la société civile du Nord Kivu, en ligne depuis Paris, capitale de la France, et Romega, qui est journaliste au magazine Jeune Afrique, il est chargé de la couverture de la RDC et de la région des Grands Lacs. Et Madame Christine Bingaya Sakina, qui est journaliste à la Radio-Télévision Nationale Congolaise FNC Congo Central, devait aussi être avec nous dans cette émission, mais elle ne décroche pas son téléphone. Jean-Pierre Bemba dénonce le renforcement des positions du M23 lors de la 96e réunion du Conseil des ministres de vendredi 29 avril dernier. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, a fait le point de la situation opérationnelle de nos forces de défense et de sécurité face à la situation sécuritaire du pays qui demeure préoccupante dans les territoires des Masisi, Rutshuru et Nyiragongo où les RDF M23 poursuivre l'occupation des terrains dans certains axes, dont principalement Tianzhou, Runyoni et Bigega. Des nouveaux renforts en provenance du Rwanda sont arrivés selon Jean-Pierre Bemba. Pendant ce temps, à Bujumbura, au Burundi, les ministres des Affaires étrangères et différents chefs de délégation ainsi que leurs experts du comité d'appui technique ont clôturé jeudi dans la soirée la réunion de discussion. Cette session ministérielle était une réunion préparatoire du 11e sommet des hauts niveaux du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba qui est prévu de se tenir ce samedi à Bujumbura. John Banyene, vous avez opté pour ce sujet, on peut savoir pourquoi?
Oui, Guy Matteu, je crois que si on a opté sur ce sujet de renforcement des positions du RDF M23, alors que ces rebelles sont censés se retirer des localités occupées, il y avait encore notre moratoire où ces rebelles M23, RDF, le 30 avril, ils devraient être dans le Mont Sabino. Pour dire, ils devraient abandonner toutes les positions ou toutes les zones qu'ils occupaient. Mais malheureusement, l'état où nous observons le déploiement de la force régionale sur terrain, mais les terroristes du M23 continuent à occuper et à venir réoccuper des positions. Et cela, sous l'œil impuissant de l'EAC, que ces terroristes du M23 continue avec les actes barbares. Pas plus tard qu'avant-hier, donc la nuit du mercredi au jeudi 4 mai, ils ont tué, ils ont massacré la population dans la localité de Kizimba. Kizimba, c'est un groupement Bishusha, à chefferie de Bwito, en territoire de Rutshuru. Ces terroristes du M23 continuent à faire des mouvements, ils continuent à renforcer des positions dans le Rutshuru. Je viens de vous parler de cette tuerie-là qu'ils ont perpétrée dans le Kizimba. Ils sont donc à Kizimba, là où ils sont à Bwiza, ils sont à Mulimbi, ils sont à Shoni, là c'est toujours en chefferie de Bwito, dans la chefferie de Bwisha. Ils sont à Kiwanja, là où on appelle Kamulima, ils sont à Katale, ils sont à Kazuba, ils sont à Rutshuru, Runyoni, Tianzhu, Bugina, Bigega, là c'est un territoire de Rutshuru, et là la population continue à souffrir. Ils ont même kidnappé les gens dans la cité de Kiwanja. Pour que ces gens soient libérés, il fallait une rançon d'au moins 3 000 $. À part Rutshuru, ils sont aussi dans le territoire de Nyiragongo. C'est aussi un territoire à la limite avec le Rwanda et le M23. Ils ont toujours traversé dans les collines de Sabinho en provenance du Rwanda. Et là, ils traversent pour aller dans le Masisi. Et là où, jusqu'à aujourd'hui, dans le Masisi, ils sont dans la zone de Bunyole, ils sont à Ruvunda, ils sont à Kausa, ils sont à Katabiro, ils sont à Kabalekasha, ils sont à Burungu, Busumba. Et là, ils sont en Pati. Et là, en Pati, là où ils sont en train de piller les ressources naturelles.
John,
là, oui.
Oui, c'est un secret de polichinelle. Hein. On savait que les M23 étaient en train, n'est-ce pas, de renforcer leur position. Vous, de la société civile, vous n'avez jamais cessé, n'est-ce pas, de les dire. Et là, c'est le vice-premier ministre, le ministre de la Défense nationale, qui vient de les confirmer. Peut-on dire qu'en dépit de leur engagement de se retirer des localités qu'ils occupent, le M23 n'a jamais renoncé à son projet d'attaquer la ville de Goma?
Effectivement, ils n'ont jamais renoncé parce que jusqu'à aujourd'hui, ils continuent à renforcer leurs positions. Je venais de vous parler des positions de Rutshuru. Je peux vous parler des positions qu'ils occupent dans le Nyiragongo parce que le Nyiragongo, c'est un territoire voisin de la ville de Goma. Ils sont dans toutes les collines sur Plomba, les groupements Kibumba et Buhumba. Ils sont dans la colline de Hehu, Nyundo, Bizuru, et partout là-bas, c'est à la frontière. Donc, ils quittent le Rwanda pour entrer directement chez nous au Congo. Et pas plus tard qu'avant-hier, les terroristes RDF, parce que ces derniers temps, à part les ressources naturelles qui sont entrées de piller dans les territoires de Masisi, plus précisément en Pati, Il commence même à piller le vache de paisibles populations. Et avant-hier, vers la ligne de Tongo, on a massacré plus de 100 vaches que les terroristes du M23 RDF ont pillé dans les massifs et qui voulaient faire traverser au Rwanda. Et je crois qu'avec tout ça, ils sont en train de tromper pas seulement l'opinion nationale, même l'opinion internationale. Parce que, tel que je disais, c'était le 30 mars que le M23 devrait être dans le Mont Sabine, mais malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, la population elle est en train de souffrir. Il y a des kidnappings, il y a des pillages de produits champêtres, il y a des taxes qu'ils imposent à la population, et avec tout ça, la population est en train de souffrir, et c'est là, sous l'œil impuissant de l'EAC. Et c'est ce qui énerve même la population, voir comment les forces de l'EAC sont en train de cohabiter avec ces terroristes RDF du M23. Et là, la population dit que le M23 et l'EAC ont un complot, parce que l'EAC, nous nous sommes en train de mal digérer cette interposition que l'EAC est en train de faire entre les forces loyalistes et ces terroristes RDF du M23. C'est vraiment quelque chose que nous continuons à condamner avec la dernière lutte.
Merci, merci, nous avons compris. Monsieur Romegra, quelle est votre lecture par rapport à la carte que le M23 est en train de jouer pendant qu'il affirme se retirer, il renforce ses positions?
Il semble déjà assez clair. Enfin, bon, du côté des autorités, vous avez cité le BPM Jean-Pierre Bemba. Il y avait eu les déclarations un petit peu avant de Constant Lima sur qui parlait lui aussi de retrait en trompe-l'œil, ce qui semble assez établi de part et d'autre. C'est qu'à minima, on peut parler d'un retrait partiel depuis qu'on parle de la perspective d'un cantonnement. L'état-major politique du mouvement est a priori toujours positionné à Bunagana ou dans ses environs. C'est d'ailleurs de là-bas qu'il signe ses communiqués. Maintenant, j'allais dire, l'avenir de cette question est quasiment aussi incertain que celui de la force régionale. Le président Félix Tshisekedi a rappelé encore récemment, lorsqu'il a reçu son homologue suisse, son opposition catégorique à négocier avec les rebelles du M23. Ces derniers lui ont immédiatement répondu qu'il n'avancerait pas vers la perspective d'un cantonnement, sachant que les sites étaient déjà en train d'être identifiés à cette époque-là, notamment à Kindu, au Ranyema, et qu'il n'avancerait pas vers cette perspective sans avoir de garantie de dialogue. Donc on se retrouve dans une situation d'impasse qui fait craindre une nouvelle escalade d'une certaine manière sur le terrain, mais difficile à ce stade de savoir exactement de quoi seront fait la suite.
Oui, nous l'avons dit, à Bujumbura, il y a une démarche, n'est-ce pas, en cours pour voir comment on peut réactiver l'accord cadre d'Addis Abeba. On rappelle que c'est un accord qui a été signé en 2013, à travers lequel les États de la sous-région des Grands Lacs avaient pris un certain nombre d'engagements pour prévenir des crises qui pouvaient aboutir aux conflits armés. 10 ans après, on se rend compte que cet accord n'a jamais été respecté. Et à votre avis, qu'est-ce qui peut expliquer que cet accord n'a jamais été respecté? Et si à l'issue, n'est-ce pas, de cette rencontre de Bujumbura, les partis acceptent de respecter leurs engagements, cela suffirait pour ramener la paix et la stabilité dans l'est de la RDC?
Ouais, le mécanisme de l'accord cadre d'Addis Abeba, ça fait depuis plusieurs années déjà qu'on parle d'une revitalisation de ce mécanisme. C'est la RDC qui occupait la présidence de ce mécanisme au cours de l'année précédente, qui va transmettre cette présidence au Burundi. Mais le problème qu'on a aujourd'hui pour ce qui est des mécanismes diplomatiques, c'est qu'aujourd'hui on a une superposition de différents mécanismes. C'est-à-dire que d'un côté, vous pouvez vous en remettre au mécanisme de l'accord cadre d'Addis Abeba, mais en parallèle, vous avez aussi le processus de Nairobi avec son volet politique et son volet militaire. Vous avez le processus de Luanda qui est aussi impliqué dans la résolution de cette crise. Dans la foulée de la rencontre qui se déroule à Bujumbura le 8 mai, vous allez avoir une réunion de la Troïka de la SADC qui aussi porte sur les questions de sécurité et qui va aborder la question de la crise sécuritaire congolaise. Donc c'est difficile aujourd'hui de dire ce qu'est la stratégie congolaise diplomatique, quel mécanisme privilégié, quelle structure, quel bloc régional aussi privilégié pour la résolution de cette crise. Donc là, pour répondre plus directement à votre question, est-ce qu'aujourd'hui on est en mesure de clairement, concrètement relancer le mécanisme de l'accord cadre d'Addis Abeba? Pour moi, c'est un débat qui a lieu régulièrement chaque année quand on tient ce sommet du mécanisme.
Merci, on prend une petite pause avec J'étais jure de Cindy, le cœur de l'orchestre Quartier Latin, et on revient tout de suite après. Jure de Cindy, l'auteur de l'orchestre Quartier Latin de Koffi Olomide. Je rappelle que nous avons dans cette émission John Obanyene, il est président de la société civile du Nord Kivu, en ligne depuis Paris, capitale de la France, et Romega, qui est journaliste au magazine Jeune Afrique, il est chargé de la couverture de la RDC de la région des Grands Lacs. On devait aussi avoir Madame Christine Bingaya Sakina, qui est journaliste à la radio-télévision nationale congolaise RTNC Congo Central, mais malheureusement elle n'est pas là. La police a réprimé récemment à Matadi au Congo central une marche des déclarants en douane issus des différentes corporations exerçant leurs activités dans la ville portuaire. Ces commissionnaires en douane voulaient dénoncer à travers cette manifestation la hausse vertigineuse de la valeur en douane que la Direction générale des douanes et accises DGDA a configurée dans son système Sidonia. D'après ces déclarants, cette hausse met en péril le secteur douanier du Congo central et viole la loi régissant non seulement les codes des douanes, mais également tous les textes réglementaires et légaux en vigueur. Madame Christine Bingaya Sakina, si elle était là avec nous, parce que c'est elle qui a choisi, n'est-ce pas, de nous parler de ces sujets, si elle était là, elle nous aurait dit pourquoi elle avait opté pour ce sujet. Malheureusement, elle n'est pas là. John Banyene, vous êtes président de la société civile du Nord Kivu, vous êtes dans une province qui a beaucoup de postes douaniers. Et comment vous réagissez à cette hausse de la valeur douanière dans la province du Congo central? John Banyene? Allô, apparemment, il est parti. Romedga, est-ce que vous êtes là?
Je suis là.
Voilà. Quelle est votre lecture par rapport à cette hausse de la valeur douanière au Congo central?
Bah, ce que je trouve intéressant, c'est ce que l'on se disait avant l'émission, c'est-à-dire dans quelle mesure ce type de mesure ou d'événement se noue avec l'idée de l'amélioration du climat des affaires et de la venue des investisseurs que souhaite impulser l'administration Tshisekedi depuis qu'elle est arrivée au pouvoir. Il y a eu beaucoup d'initiatives en ce sens. L'IGF a pris une importance qu'elle n'avait pas avant. Il y a eu la création de l'agence APLC, alors qui a elle-même connu un scandale lié à des questions de corruption. Il y a eu la redynamisation du CNRF, mais malgré ça, on continue de voir quelques blocages, quelques problèmes dans ce secteur. Là, le FMI a conclu il y a deux jours son rapport, et dans son rapport, le FMI parle justement de cette question du climat des affaires et dit notamment qu'elle reste essentielle pour la diversification de l'économie et pour tirer la croissance du secteur privé vers le haut, tout en mentionnant que des réformes majeures sont nécessaires pour rendre opérationnel tout un type de loi, notamment sur la lutte contre le blanchiment des capitaux. Donc comment ce qui se passe aujourd'hui dans le Congo central rentre ou non en opposition avec ce type d'objectif sur l'amélioration d'un climat des affaires favorable à la venue d'investisseurs, c'est là, à mon avis, que le débat peut être mené.
Merci. John Banyene, est-ce que vous êtes là?
Oui, je suis là.
Voilà, nous parlons de cette manifestation qui a été organisée par les déclarants en douane au Congo central pour s'opposer à la hausse de la valeur en douane par la DGDA à travers son système Sidonia. Et j'ai demandé, vous qui êtes dans une province et qui a beaucoup de postes douaniers, comment vous réagissez par rapport à cette situation?
Monsieur Guimaté, je crois que par rapport à cette hausse-là de prix au niveau des douanes, c'est une situation qui nous préoccupe tous parce que, vous savez, ici chez nous, nous sommes dans une situation d'abord de guerre et quand il y a cette problématique-là de hausse des prix de dédouanement, le prix des billets doit aussi hausser le prix, qui est un problème. Et nous croyons, pour le moment, surtout la situation dont traverse le pays, plus particulièrement ici chez nous à l'Est, ce n'était pas le moment qu'on pouvait venir chercher à maximiser les recettes de la part d'une population déjà meurtrie. Et moi, je crois que d'ailleurs, là je parle essentiellement pour l'Est et plus particulièrement au Nord Kivu. Je crois que nos gouvernants, s'ils étaient vraiment humanitaires, d'ailleurs la province du Nord Kivu devrait être déclarée une province sinistrée parce que une province qui passe dans cette situation de guerre où, je peux dire, la province est déchiquetée par les groupes armés et en plus une autre guerre d'agression. Par exemple, comme la ville de Goma actuellement, c'est une ville qui est enclavée parce que actuellement il n'y a pas de mouvement entre le Grand Nord et le Grand Sud. Pour aller même dans d'autres territoires, contenu aussi à l'impraticabilité des routes. Et donc, la vie de la population actuellement, surtout dans la ville de Goma, elle est trop, trop chère. Et maintenant, car cette problématique aussi, les déclarations en douane où le prix a encore augmenté, ça renforce encore la misère de cette population. Et je crois qu'à ce niveau, le gouvernement devrait songer, voir comment remédier cette situation par rapport au social de sa population.
John Banyenye, d'un côté, le gouvernement veut mobiliser les recettes, et de l'autre côté, n'est-ce pas, il veut améliorer les climats des affaires pour tenter, n'est-ce pas, d'attirer les investisseurs. Et à votre avis, face à ces deux objectifs, comment le gouvernement devrait se comporter?
Je crois qu'effectivement, si le gouvernement veut qu'il y ait vraiment un bon climat des affaires, je crois que ici chez nous, il y a trop de taxes. Il y a un principe qui dit que trop de taxes tue les taxes. Je crois que comme la population était habituée à payer une quelconque taxe à un taux au moins passable, le gouvernement devrait plus se focaliser effectivement à la maximisation des recettes, sans pour autant hausser les taux de certaines taxes ou impôts. Le gouvernement devrait plus se focaliser dans le cadre de canaliser toutes les recettes dans les trésors publics, parce que vous savez, à un moment donné, je peux dire, il y a 4 ans, que notre budget était à 6 milliards, voire même 4 milliards, 5 milliards, mais aujourd'hui, le budget est à 16 milliards, ce qui est une bonne chose. On devrait quand même encourager le gouvernement à canaliser tous ces fonds-là dans les trésors publics, parce qu'on savait qu'il y avait trop de coulage de recettes, il y avait de laisser aller. Je crois que actuellement le pays a beaucoup de difficultés, surtout que nous sommes en guerre. Effectivement, le gouvernement a besoin de moyens, mais il devrait quand même se focaliser plus à canaliser les recettes qu'on a d'abord dans les trésors publics avant de commencer d'échanger les taux qui existaient, par exemple.
Merci Romégra, nous allons conclure avec vous, nous allons finir avec vous. Comment peut-on arriver à harmoniser les impératifs de la mobilisation des recettes et les impératifs d'amélioration, n'est-ce pas, de l'environnement des affaires?
Il y a une question de réforme qui se pose très naturellement sur cette question-là. Après, moi, je n'ai pas la solution à tout ça. Si on lit encore une fois la revue du FMI, elle cible tout un tas de réformes qui sont à mettre en place pour améliorer le climat des affaires. Maintenant, il y a aussi un impératif de retour des recettes. Comment cumuler les deux? C'est de la prérogative, j'allais dire, des autorités de trouver la solution à tout ça.
Merci, nous sommes à la fin de cette émission. Merci à John Banyenye, à Romégra qui ont accepté de participer à cette émission. Malheureusement, on n'a pas eu Madame Christine Bingaya Sakina, qui est de la FNC Congo Central, qui n'a pas décroché, n'est-ce pas, son téléphone. Merci aussi à Pierre Diassinois, qui était à la technique, avec la participation d'Hervé Voka et de Def Vita. À la présentation, Guy Maté, sous la supervision d'Alex Essomé, Martin Sebujango et d'Etienne Rougeri. Merci et bon week-end sur Radio Capi. Cette émission sera rediffusée ce soir à 22h, heure de Kinshasa. Vous pouvez aussi la retrouver sur le site radiocapi.net. On se sépare avec Tantine Betena de Dindo Yogo, chanson sortie en 1982 avec l'orchestre Langa Langa Star. Et on se retrouve le samedi prochain.
Oh, Tantine Betena. Oh, mon fort. Vous allez m'aider à l'opico. Pour la belle, à la voix douce, la qui s'en va et l'onguin à y'a pas mon âme. Yo qui s'appelle mon combo d'ailleurs.
Ayo, 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 ayo,